dois comprendre. » De toute évidence, le jeune homme n'en était pas capable. Sans doute, comme il était le fils du prévôt, n'avait-il pas été habitué à la contradiction. Et la fureur dans ses yeux avait quelque chose de terrifiant. « Tu ne riras pas autant quand je te dirai ce qui est arrivé à ton vieux juif » cracha-t-il sur le ton de la revanche et du défi. « Pardon ?» La figure du garçon se métamorphosa. « Ah, tu vois ? Tu ne ris plus maintenant, n'est-ce pas ?»«
De quoi parles-tu, François ?»«
Ton vieux juif. Ce vieux suppôt du diable, que tu allais voir à la sortie de la ville. Il est mort. Et je sais, moi, comment il est mort. »«
C'est ton père qui l'a tué, c'est ça ?»
demanda à Alice alors que ses jambes soudain s'étaient mises à trembler. Une grimace de suprême dédain se dessina sur les lèvres du jeune homme.
« Mon père ?
Oh, non ! Tu n'y es pas du tout, ma pauvre Alice. Ce n'est pas mon père qui l'a crevé, ton vieux juif. C'est le tien. »
Chapitre 44. Bien que, plus que tout autre roi avant lui, Philippe le Bel s'efforça par obligation de paraître le plus souvent possible en son palais parisien, il ne rompait toutefois pas complètement avec la vie itinérante de ses prédécesseurs. Allant de domaine en domaine, de château en château, de France en Navarre. Et sur une année entière, il ne résidait jamais plus de 3 mois dans la capitale. Mais homme grave et laborieux, on ne lui connaissait qu'une seule fantaisie, la chasse. Et celle-ci l'attirait souvent à Vincennes, à Poissy ou à l'Isle-Adam. Nous le retrouvons donc à présent, en ce mois de mars où l'on chasse la corneille, dans son château de Fontainebleau, celui-là même où il avait vu le jour en l'an 1268. Et aussi où, par une autre ironie du sort, en se livrant à cette dévorante passion pour la traque, il trouva sauvagement la mort en 1314. Mais cela est une autre histoire qui ne concerne pas notre récit. Assise dans la belle forêt de Bière, la propriété, agrandie par son grand-père Louis IX, dit Saint-Louis, était vaste et somptueuse, dominée par un large donjon anguleux, fermé par une enceinte haute flanquée de tourelles et qui abritait aussi un couvent. Quand il se déplaçait ainsi, Philippe ne venait pas avec tout son hôtel, mais bien avec 100 ou 150 hommes, selon que la reine ou les princes l'accompagnaient. Il y avait là tout le personnel de la chambre, de la chapelle, de la panetterie, de la cuisine, de l'écurie et de la fourrière, mais aussi bien sûr de la vénerie, avec ses chasseurs, ses archers, ses fauconniers et ses valets de chiens. Quand il n'était pas retenu à son hôtel de la rue d'Autriche, le grand chambellan Enguerrand de Marigny était là lui aussi, qui gouvernait à ses côtés. Il en était ainsi ce jour-là. « Un messager est venu vous porter une lettre de Guillaume de Nogaret, votre Altesse. » Marigny avait dit cela avec une imperceptible amertume. Lui qui n'appréciait guère que son rival entretint la moindre correspondance cachée avec le roi. Le souverain et son chambellan marchaient côte à côte, sans la foule de leurs servants, comme ils aimaient à le faire parfois pour parler des affaires du royaume, et ils étaient arrivés maintenant au-delà des jardins du château, là où le sable donnait au paysage aride des airs de grand désert. Le temps s'était adouci et l'on reprenait enfin plaisir à la promenade.
Une lettre, s'étonna le Capétien. Cela ne lui ressemble pas, c'est sans doute que la chose ne peut pas attendre. Voulez-vous bien m'en donner lecture, Enguerrand ?
Philippe IV, qui de sa belle figure avait tiré son célèbre qualificatif, était un homme que ses contemporains disaient dur et froid, de marbre ou de fer. Mais à ses plus proches conseillers, il n'échappait guère que derrière cette austérité se cachait en vérité beaucoup de sagesse, et sans doute un soupçon de timidité. C'était un souverain rigoureux et exigeant, opiniâtre, qui ajoutait à la très haute idée qu'il se faisait de sa fonction un ambitieux dessein pour son royaume, dont il voulait grandir la puissance et l'unité. S'il pouvait se montrer dur, impitoyable même, jamais il ne laissait transparaître la moindre colère, et en toute chose, il demeurait calme et maître de lui-même. Avec Marigny, toutefois, le Capétien se laissait plus facilement aller. C'était, de toute sa cour, celui avec lequel Philippe le Bel était le plus intime, et le seul auquel il épargna donc, en partie du moins, la mise en scène de sa légendaire rigidité.
« Je ne sais si je puis, votre Altesse. La missive porte le sceau du secret. »
« Allons, allons, je n'ai plus de secret pour vous, chambellan. »
Le ministre du roi fit une révérence obligée, puis il ouvrit la lettre.